le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM et de prendre part à ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il sera question d'un triste sujet. Oui, il sera question de la découverte des ossements de Cédrica Provencher. On se rappelle que la jeune fille de 9 ans de Trois-Rivières, Cédrica Provencher, est disparue le 31 juillet 2007, il y a de cela plus de 8 ans. Les ossements de Cédrica Provencher ont été retrouvés et c'est ce que TVA Nouvelles nous apprenait samedi soir. Effectivement, des restes humains sont trouvés près de la voie de désert de l'autoroute 40 à la limite entre Trois-Rivières et Saint-Maurice. Ça a eu lieu le 11 décembre 2015. Le lendemain, le 12 décembre, la Sûreté du Québec confirme qu'il s'agit bien de Cédrica Provencher. Et quoi qu'il en soit, le sénateur Boisvenu croit que de nombreuses questions sont encore sans réponse. C'est pas pour rien que Wikipédia mentionne qu'en 2015, un documentaire sur cette affaire intitulé « Cédrica », réalisé par Stéphane Parent, parle en détail de cette disparition jugée l'une des plus complexes de l'histoire de la province. C'est pas peu dire, hein? C'est l'une des plus complexes de l'histoire de la province. Un des éléments qui rend cette histoire complexe, c'est la piste de l'Acura rouge. Vous savez que l'Acura, c'est un modèle de véhicule automobile. Il y avait, on avait une piste. C'était que le présumé meurtrier, ou celui qui avait du moins enlevé cette fille-là, aurait conduit une Acura rouge. Mais ce qui est arrivé, c'est que tous les conducteurs d'Acura rouge 2004, parce qu'à cette époque, c'était une 2004. C'est ce qu'on nous révèle, encore une fois, par TVA Nouvelles, lors de cette publication du 9 mars 2012. Eh bien, tous les conducteurs d'Acura Rouge 2004 ont été écartés, sauf un. Il s'agit d'un résident de la région de Trois-Rivières qui demeure un sujet d'intérêt pour les enquêteurs. L'homme en question se trouvait dans la région le soir fatidique de juillet 2007. Sa voiture a été remisée dans les semaines suivant la disparition de Cédrica. Quand les policiers ont localisé le véhicule, il avait été nettoyé. Une expertise y a été menée, mais rien d'incriminant n'y a été retrouvé. Le conducteur a toutefois refusé de passer le polygraphe. Et donc, moi, quand j'ai appris cette nouvelle-là, à cette époque, j'étais à l'envers, j'étais sans dessus-dessous, parce que je me suis dit, « Wow, on a une piste, mais on n'est pas capable d'incriminer. » Et donc, c'est sûr que tout le monde est reconnu innocent jusqu'à preuve du contraire. Et donc, ça laissait beaucoup de gens perplexes, et ça ne donnait pas de réponse ni aux parents, ni aux proches de Cédrica, ni à la population qui ont été concernées, la population qui a été concernée par cette disparition, par cet enlèvement. À cette époque-là, on ne savait pas si Cédrica était morte ou si elle était disparue. Mais le sénateur Boisvenu, qui lui justement a vécu une terrible épreuve en 2002, sa fille aînée a été assassinée par un criminel récidiviste, lui, il croit qu'il doit y avoir un registre public des prédateurs sexuels. Et pour lui, c'est important pour qu'on puisse géolocaliser ou du moins être en état de méfiance dans un quartier où est-ce qu'il se trouve un ou des prédateurs sexuels. Parce que vous savez que le sénateur Boisvenu, puisqu'il a vécu il a vécu cette expérience-là, d'avoir non seulement perdu sa fille, mais qu'elle a été assassinée. Et donc, pour lui, c'est évident qu'il est resté marqué de cette épreuve-là. C'est un fait extrêmement marquant. J'aimerais pas être retrouvé dans sa situation. Et qu'est-ce qui nous dit, M. Boisvenu, juste pour nous exprimer son état d'âme et comment il a vécu cette expérience horrible? Il dit, et je cite, et c'est pris encore une fois de TVA Nouvelles, en fin de semaine, le 12 décembre, ce sont quand même des propos assez récents. Il dit « Ce sont les pires épreuves d'une vie qu'on peut avoir comme parent, de ne jamais avoir de réponse », mentionne M. Boisvenu. « C'est terrible, ce sont des expériences qui n'ont pas de nom ». Et c'est pour ça qu'il rappelle la nécessité d'un registre public des prédateurs sexuels pour protéger les familles et les enfants. Et qu'est-ce que c'est, ce registre, justement, des prédateurs sexuels? Dans un premier temps, il existe ce registre-là. Il existe un registre national des délinquants sexuels et c'est un registre, par exemple, qui est géré par la GRC, donc la police fédérale, mais qui n'est pas rendu public. On peut y avoir accès par la loi de l'accès à l'information, mais ce n'est pas une information qui est diffusée, comme on dit en bon québécois, « at large », qui est diffusée à grande échelle. Le registre des prédateurs sexuels, eh bien, il s'agit d'une base de données de la GRC qui fournit aux services policiers canadiens des renseignements importants qui facilitent leur enquête sur les crimes de nature sexuelle et qui peuvent leur permettre de prévenir des crimes. Mais ce qui est arrivé, parce que justement, il y a de l'opposition à ce qu'il y ait un registre public, puis je vais vous donner les raisons dans quelques instants, mais puisqu'il n'est pas rendu public, justement, il y a une dame, et c'est le 98.5 FM qui en faisait mention, mais il y a une dame, Sophie Dupont, qui, elle, a mis, si on veut, au point un genre de registre public sur Facebook. Et donc, elle a déjà travaillé dans un bureau d'avocat. Elle a été très active dans le dossier depuis de nombreuses années. Donc, après avoir réclamé en 2007 la création d'un registre officiel auprès des politiciens, elle a créé, il y a environ 5 ans, la page Facebook « Registre public des délinquants sexuels du Québec ». Et donc, sur sa page, qui compte plus de 5000 abonnés, elle diffuse des reportages, des médias, des photos, des informations comme des condamnations, des dates de remise en liberté, mais également des informations du public. Mais ce sont des informations qui sont vérifiées et vérifiables seulement. C'est ce que nous rapporte le 98.5. Et donc, Sophie Dupont dit passer de 4 à 5 heures par jour pour alimenter sa page, mais également pour modérer les commentaires véhiculés. Effectivement, elle veut s'assurer que ce qui est publié sur sa page, c'est exact. Mais elle ne comprend pas pourquoi le Québec ne suit pas l'exemple de certains États américains ou d'autres provinces canadiennes. Elle dit de ne pas se faire justice et croit que la population a le droit de savoir. Et donc, vous pourrez aller voir sur tout cet article-là sur le 98.5 FM. Et comme je vous le dis à chaque fois, ces articles sont disponibles sur ma page ericlantier.net. Et donc, Ottawa, lui, a proposé un registre public des délinquants sexuels. Et oui, en février 2014, le gouvernement conservateur de l'époque avait déposé un projet de loi pour créer un registre national public des délinquants sexuels. Mais il n'est pas encore rendu public, parce qu'il y a de l'opposition. Ce registre-là n'est pas encore rendu public. Comme je vous l'ai dit, la GRC en gère un, mais il n'est pas public. Et le fait qu'il n'est pas public, évidemment, ça amène des gens à contester sa légitimité, la légitimité de le garder en dehors du public. Et c'est pourquoi le 24 avril 2014, on voit un article qui est paru dans la presse, lapresse.ca, dans la section Actualité. On voit que l'Ontario devra dévoiler un registre des délinquants sexuels. Qu'est-ce que nous dit la presse? Elle dit que l'Ontario ne peut refuser de dévoiler le nombre de délinquants sexuels qui habitent dans les différents codes postaux de la province. Donc, l'Ontario ne peut refuser de dévoiler le nombre de délinquants sexuels qui habitent dans les différents codes postaux de la province, a tranché la Cour suprême du Canada dans un jugement rendu jeudi. Jeudi à l'époque, en février 2014, évidemment. Pour justifier son refus, et voici les raisons. Ça, c'est le nerf de la guerre. Le ministère a aussi invoqué le fait que les informations du registre sont confidentielles en vertu de la loi et ne peuvent être diffusées que par les forces de l'ordre. Le ministère craint aussi que les délinquants ne se rapportent pas aux autorités comme ils sont censés le faire s'il y a un risque que les données sur le lieu de résidence ne soient rendues publiques. La décision aurait sûrement été différente si la demande avait visé les codes postaux complets, laisse entendre la Cour. En d'autres mots, ce qu'on demandait, c'est de dire, on veut les trois premiers chiffres. Hein? On va dire, votre code postal, c'est, je ne sais pas moi, J0K1A7. Bien, on aurait juste écrit dans la section J0K, et bien là, il y a des prédateurs sexuels. Maintenant, avec ces trois premières lettres, dans certaines municipalités, il peut y avoir 40 types de J0K. J0K, comme je vous dis, 0A1, 0A2, etc. Mais dans d'autres municipalités, il y en a juste un. Donc, ça crée des inégalités. Mais du moins, dans l'ensemble, on ne donne pas un secteur trop restreint, un secteur suffisamment large, et ça donne aux gens d'être aux aguets. Le problème, et il y a toujours une contre-attaque à un argument, hein, le registre des délinquants sexuels dangereux doit-il être rendu public? Qu'est-ce que nous dit Radio-Canada à cet effet? Il n'y a pas si longtemps que ça quand même, ça fait moins d'un an. Le 13 mai dernier, Valérie Brancard, intervenante sociale auprès des victimes, abonde dans le même sens. Les agressions sexuelles, 80% du temps, c'est une personne qu'on connaît. Ça peut être le conjoint, le père, l'entraîneur, c'est souvent dans le réseau. Ce n'est pas vraiment l'inconnu qui vient de déménager en arrière. Donc, c'est faux de croire qu'en fouillant dans le registre, on va avoir une meilleure sécurité. Alors, ça, c'est le contre-argument. Moi, personnellement, je suis beaucoup plus en faveur d'un registre parce que ça donne d'identifier, ça oblige le fautif, ça oblige le criminel à être identifié et justement à vivre avec les effets de son crime. Et donc, c'est important pour moi qu'il soit identifié et qu'il soit quand même sous haute surveillance par la communauté, par la population. Des chiffres qui parlent sur msss.gouv.qc.ca, donc ce sont des chiffres officiels du gouvernement du Québec. Les deux tiers des victimes d'agressions sexuelles sont âgées de moins de 18 ans. 82% des victimes sont des femmes. Et ça, c'est incroyable. Vous avez justement un site, une page qui est dédiée aux agressions sexuelles, agressionssexuelles.gouv.qc.ca. C'est d'autres statistiques officielles. En 2009, au Québec, 5293 infractions sexuelles ont été enregistrées par les corps policiers. Ça, c'est ceux qui ont été enregistrés. Donc, plus de 5000. Et c'est incroyable là-dedans. 33% des infractions sexuelles enregistrées en 2009 ont été signalées par la police le jour même de leur perpétration, tandis que 22% l'ont été plus d'un an après avoir été commises. 83% des victimes, bon, c'est entre 82 et 83, étaient de sexe féminin, donc c'est largement en majorité de sexe féminin. 52%, c'est des jeunes filles de moins de 18 ans. 66% au total des victimes avaient moins de 18 ans, parce qu'il y a 14% que c'est des jeunes garçons de moins de 18 ans. Quand même, on voit que le ratio est majoritairement des jeunes filles. Mais, écoutez, 10% 5 ans et moins. 10% des victimes, c'est 5 ans et moins. C'est quand même incroyable. Un peu plus des trois quarts, 76% des infractions envers les jeunes victimes et 61% de celles envers les victimes adultes ont été perpétrées dans une résidence privée. La majorité des victimes connaissent l'auteur présumé, soit 86% des jeunes victimes et 71% des victimes adultes. C'est quand même fort comme statistique, mesdames et messieurs. Et donc, c'est des statistiques quand même qui font peur. D'autres faits saillants, les homicides d'enfants par un parent ou un tuteur. Et vous avez ça sur le site de la GRC. Le nombre de meurtres d'enfants a augmenté de 34 en 90 à 51 en 98, atteignant un sommet de 62 en 1997. Ce n'est pas des statistiques qui sont d'aujourd'hui, qui sont mises à jour, mais quand même, ça nous donne une idée. Les enfants de moins d'un an étaient plus à risque, tant en ce qui a trait aux meurtres simples qu'aux meurtres multiples. L'âge moyen de l'ensemble des enfants visés par l'analyse est de 4 ans. Les meurtres d'enfants, wow! C'est quand même spécial, hein? Et savez-vous quoi? Moi, ce qui m'a jeté en bas de ma chaise, c'est que les mères et les pères tuent des enfants à la même fréquence que des étrangers. Tout groupe d'âge confondu, il y a plus de meurtres d'enfants par la mère ou la belle-mère que par le père ou le beau-père. En ce qui concerne les disparitions, ces statistiques sont tirées d'un compte-rendu sur les enfants disparus en 2013, donc c'est beaucoup plus récent, produit par le Centre canadien de police pour les enfants disparus et exploités, CCPEDE, de la Gendarmerie royale du Canada, donc la GRC. Donc, le compte-rendu va ainsi. En 2013, 41 035 disparitions d'enfants ont été signalées aux forces policières canadienne, 41 035 en 2013. 65% des signalements d'enfants et d'adolescents disparus ont été retirés en moins de 24 heures, tandis que 87% ont été retirés en moins d'une semaine. Ça, au moins, je veux dire, on voit qu'il y a du mouvement à cet effet-là. 43% de ces signalements portaient sur des enfants âgés de 14 à 15 ans, donc des fugues. La majeure partie des signalements d'enfants disparus en 2013 sont des cas de fugue, effectivement. Les 29 871 cas signalés en 2013 représentent près de 73% de tous les signalements d'enfants disparus. Les filles sont plus nombreuses que les garçons à avoir fait l'objet d'un signalement de fugue en 2013. En ce qui concerne les enlèvements parentaux pour l'année 2013, on enregistre 130 signalements d'enlèvement d'enfants par l'un des deux parents. C'est en Ontario, au Québec et au Manitoba que l'on signale le plus grand nombre d'enlèvements parentaux en 2013. Que ce soit le phénomène d'agression sexuelle, que ce soit le phénomène de meurtre, que ce soit le phénomène d'enlèvement, c'est quelque chose qu'on doit se pencher davantage parce que les statistiques nous révèlent que c'est quelque chose de faramineux. Alors, moi, je veux offrir mes sympathies aux parents de Cédrica, à la famille Provencher, donc à la famille, aux proches qui sont aujourd'hui, doivent être bouleversés. Plus de 8 ans après ce malheureux événement. Alors, c'est déjà le temps de clore cette émission. Je vous invite donc à être des nôtres du lundi au vendredi à 8h05 et à 20h05 pour parcourir votre tour d'horizon. Si vous désirez poursuivre la discussion, je vous invite à m'écrire à l'adresse suivante. C'est leblogueur@ericlantier.net. C'est leblogueur@ericlantier.net. N'oubliez pas que cette émission est également disponible sur le www.ericlantier.net. C'est www.ericlantier.net. Merci d'avoir syntonisé le 92,7 FM. Je vous dis à demain.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!